porte sur soi.
Et bah, du coup, dans cette carte blanche, donc avec Blue Book, la première peut-être d'une série, on va enfin vers le Blue Book numéro 2 de Dimitri Piotr, Salaryman. Même format, donc voilà, édité, réfléchi en même temps, et malheureusement Dimitri n'est pas en Belgique, il est même assez loin, il est à Osaka je crois, au Japon, et donc bah, tu lui as envoyé une série de questions auxquelles il a réussi à nous répondre par WhatsApp, donc bah, on va rentrer là-dedans, et en fait ses réponses étant assez agréables à écouter, peut-être même qu'on arrivera à ne pas mettre nos questions. Donc voilà, on va se mettre un petit morceau pour changer, si on était un peu dans les montagnes hollandaises, on va plutôt prendre quelque chose pour un peu traverser les continents et aller du côté de l'Asie et du Japon avec Dimitri, est une toute autre démarche, et puis bah, vous allez l'entendre assez... voilà, calmement et distinctement parler de tout ça en prenant son temps. Mais voilà, un peu de musique avant ça. Un titre qui s'appelle Sonatine, extrait d'un film de Takashi Kitano, Act of Violence.
Déjà, merci pour cette interview. Je vais essayer de répondre du mieux que je peux, mais c'est très perturbant de faire une interview face à un micro et sans intermédiaire ou sans personne avec qui échanger. J'espère que ce sera assez pertinent. Et je m'excuse pour la qualité du son, puisque je suis actuellement à Osaka, donc les conditions d'interview par rapport au décalage horaire, un tas d'autres éléments logistiques et techniques ne permettent pas qu'on puisse échanger en direct avec avec un intervieweur et avec Philippe.
Dimitri Piot, auteur du Blue Book numéro 2, Salaryman.
Donc, comment est-ce que j'ai eu écho du, comment est-ce que j'ai eu connaissance du projet de la Kryptonique et de la structure éditoriale et comment est-ce que je la vois? J'ai eu écho du projet parce que j'avais découvert dans une interview web consacrée à la bande dessinée, une interview de Philippe Capard qui évoque la structure de la Kryptonique qui venait de lancer. Cette interview, en fait, défendait son regard, ce qu'il faisait, l'idée qu'il avait de la Kryptonique. Il parlait de tout ça, il évoquait tout ça. C'était intéressant et j'aimais bien tout le regard qu'il portait sur le monde de la bande dessinée, je m'y trouvais pas mal. J'avais une trentaine d'années à l'époque, juste 30 ans, je pense, 31. On était en 2011-2012. Et je m'y retrouvais pas mal. Donc j'avais envie, après avoir lu l'interview, bah, je me suis rendu à sa galerie, à la galerie Bortier, et je me suis rendu à la librairie éditrice à Kryptonique. Pour échanger quelques mots avec lui, on avait papoté pas mal, il m'avait offert un café. Et je me retrouvais fort dans le discours, il y avait quelque chose qui devait être créé, qui était à faire. Je trouve dans le paysage qu'il proposait, il y avait des tas de possibilités et il était très ouvert à ce qu'on puisse faire quelque chose. On ne savait pas encore comment est-ce qu'on allait bosser ensemble, mais il y avait une envie et on s'était entendu là-dessus. On a resté un petit peu en contact avant vraiment de commencer à échanger sur le projet. C'était sur le numéro Sauvage comme une image où j'avais réalisé une série de planches, ce qui illustrait également un article d'Alain de Koch. C'était très. Enfin, c'était passionnant de voir tout ça évoluer parce que il y avait un côté un peu. Il y avait un côté un peu Don Quichotte chez Philippe dans la création de la Kryptonique, dans le paysage des libraires, dans le ton qu'il proposait. Il y avait une forme d'insolence et d'impertinence que j'aimais beaucoup, une forme d'insolence et d'impertinence dans le paysage culturel de la bande dessinée belge et bruxelloise. Il y avait un côté où il secouait un peu le cocotier. J'aimais bien ça et c'est comme ça que je me suis retrouvé à collaborer avec lui. La Kryptonique, c'est un temple de papier et d'images. Moi, je suis un amoureux du livre et de l'image, donc j'arrive là-dedans. C'est comme un gamin dans un magasin de confiserie. Et on a juste envie de goûter à tous les bonbons, quoi. Et c'est un peu ça qu'il propose. Il y avait une forme de. C'était des bonbons pour les yeux. Enfin, je déteste les bonbons. J'ai jamais aimé ça, mais c'est un peu si j'essaye de faire une image, un peu d'imager ça de manière naïve, c'est ça, comme ça que je pourrais le décrire. Et puis je suis quelqu'un de très olfactif aussi. Et les livres, ça a une odeur. Et chaque odeur raconte une histoire. Et j'aime bien ce côté, tout ce que représente ce côté-là de la crypte. Il évolue dans la galerie Bortier, qui est un lieu rempli d'histoire. Donc, la galerie est vraiment. C'est un bel écrin pour la démarche, quoi, pour ce qu'il cherche à faire. Et donc, je le vois un peu, ouais, comme peut-être un Don Quichotte. Je vois la structure comme un Don Quichotte qui a réhabilité beaucoup d'auteurs et beaucoup d'artistes et d'autrices. Évidemment, le livre Sauquevelier, il y a eu René Follet. PV, je pense. Et puis ce qu'il a fait au niveau de la crypte et du magazine, il y a des choses qui sont sorties, qui réhabilitent aussi au niveau de l'histoire. J'aimais bien le ton qu'il pouvait prendre dans certains numéros. Et puis c'est le soin aussi apporté à l'ouvrage, au magazine. C'est pas parce qu'on fait des revues, des magazines qu'on doit publier ça au lance-pierre n'importe comment. Et qu'on fasse un travail d'habillage et de maquette qui pourrait être épouvantable. Là, il y avait vraiment un travail de réflexion sur la qualité, c'était qualitatif. Et puis, il y avait de l'audace aussi. Des gens comme André Mousse de Seraphine Graphics ne regardaient même pas à leurs heures parce qu'ils étaient vraiment. On était d'accord de suivre Philippe dans cette folie de projet. Les gens étaient convaincus de la folie qu'il fallait s'embarquer là-dedans. Moi, je suis un ado des années 90. Je n'ai pas connu les sorties de Metal Hurlant, mais j'adorais Metal Hurlant. Ado, j'ai fait les papeteries, les magasins de papier, les magasins, les librairies de bouquinistes pour trouver des métals d'occasion. Et j'en avais fait vraiment j'en avais une petite collection que j'ai encore aujourd'hui. Et j'aimais bien toute cette folie que cela représentait. Il y avait une forme de naïveté. Enfin, il y a des histoires, même avec François Skuyten, on dit qu'ils n'étaient pas payés ou ils avaient du mal à avoir leur thune pour publier dans Metal parce que Metal était un peu en administratif, enfin, fonctionnait un petit peu en roue libre, on va dire. Mais tout le monde y allait parce que tout le monde y croyait. Et là, un peu, c'était la même chose. Alors, je ne suis pas en train de me chercher un substitut à Metal Hurlant. La kryptonique est la kryptonique, et l'aventure kryptonique est l'aventure kryptonique. Elle n'appartient qu'à elle seule. Et moi, j'aimais bien, j'avais envie d'en être, évidemment, parce que je me dis, il faut vraiment être fou pour essayer de passer à côté de ça. Parce qu'il se passe des choses, c'est foisonnant, c'est riche. Et des auteurs et des autrices circulent, il se passe plein de trucs. Et c'est ça qui, pour moi, ça représente vraiment un espace, ça représente un terrain de création qui pouvait briser le champ des possibles. Et puis pas mal de gens dans le paysage de la bande dessinée qui étaient installés prenaient quand même tout ça au sérieux. Il y avait un côté foutraque à la kryptonique, hein, on rentrait là, on s'asseyait sur des cubes de bois en guise de chaise. Il y avait un. J'aimais bien le design des meubles qui était très très beau. Il y avait un côté épuré que j'aimais beaucoup. Et même quand on allait là-bas, il y avait un côté où je m'y sentais bien. Parce qu'il y avait une structure physique qui répondait à la structure spirituelle et littéraire qu'elle représentait. Donc voilà en gros ce que tout ça représente pour moi. Et bon, le départ de quand j'ai passé la porte. De la crypte la première fois, évidemment, je pensais pas que j'allais me retrouver à collaborer pendant 8 ans avec Philippe. Et bah, ça a été le travail de 8 ans. C'était 8 ans de collaboration sur lesquels on a pu établir certaines choses, je pense, qui ont pas marqué le coup, mais qui en tout cas ont laissé une petite empreinte. Et ça, c'était chouette. C'était chouette de se dire qu'on a collaboré à ça et qu'on a participé à ça. C'était une belle aventure bruxelloise et voilà, je trouvais ça. J'étais ravi, en tout cas, de participer à la crypte. Alors non, en fait, je ne connaissais pas Dick Boss ni Alfred Mazur par le passé. C'est Philippe qui m'a mis le livre entre les mains, à Dick Boss. Et il m'a fait un petit peu un historique du parcours de l'artiste et surtout du parcours du livre en lui-même, c'est-à-dire qu'il m'a parlé de la pénurie de papier, des planches de bande dessinée que Mazur a dû découper pour en faire des petits formats pour une raison évidente, justement, par rapport à la situation de la Deuxième Guerre mondiale. Et la situation logistique et alimentaire et tout autre, donc de la manière dont il fallait trouver des solutions à l'époque. Alors, j'étais enthousiaste en découvrant le Mazur, mais je n'étais pas non plus extatique. Je trouvais qu'il y avait des choses intéressantes, j'aimais bien, il y avait c'est évidemment formidablement dessiné. Mais comme il y avait la barrière de la langue, je ne pouvais pas rentrer dans un livre de Mazur comme on peut rentrer dans un livre dont nous pratiquons la langue. Et Il faut recontextualiser les choses. On est en 2012-2013. À l'époque, il n'y avait pas les systèmes de traduction qui permettaient de faciliter l'accès à l'information comme on a aujourd'hui. Donc aujourd'hui, vous voulez une information, voilà, regardez, aujourd'hui, je suis à Fukuoka. Pendant que je vous parle, ma lessive est en train de tourner, mais la machine à laver, elle est entièrement en japonais. Donc j'avais juste à scanner la machine à laver avec mon téléphone pour pouvoir avoir tout le programme lessive. Eh ben, à l'époque, en 2012-2013, rien qu'une case de bande dessinée, il fallait un vrai effort pour avoir une traduction si vous la voulez vous-même. Donc, rien que là, ça m'a un petit peu bloqué pour l'information. Et puis, voilà, ce qui me bloquait aussi un petit peu avec le Geek Boss, c'est le côté un petit peu peut-être Boy Scout. Le personnage un peu façon le Batman de Bob Kane et de Bill Finger. Moi, je suis plus un fan du Batman de Miller, quelque chose d'un peu plus tourmenté. Même si aujourd'hui, les écuries Marvel et DC ont puisé jusqu'à la moelle les côtés tourmentés dans leur narration, mais à l'époque, c'était quand même quelque chose de plus avant-gardiste. Et il y a ce côté-là dans le Geek Boss de Mazur, c'est le côté un peu Boy Scout, dans lequel je n'adhère pas à fond. Même si, voilà, il faut attention, je ne suis pas en train de casser le livre ou l'ouvrage. Je trouve que c'est formidablement dessiné. Il y a des passages incroyables dedans, mais je veux dire, ce n'est pas non plus en termes de lecteur, c'est pas non plus ma tasse de thé non plus, quoi. J'irai plus vers d'autres choses. Donc voilà, donc enthousiaste, oui. Et bon, après, quand j'ai le livre en main, on ne se dit pas tout de suite qu'il va être important après dans la prise de décision qu'on va faire pour les aventures qui suivent, éditoriales, hein, les aventures éditoriales de Blue Book. Ça n'a pas tout de suite été une évidence, c'est venu plus tard. Mais en tout cas, et c'est ça qui est amusant, c'est de se dire que finalement, ce petit livre, ce petit format aura quelque part une importance capitale par la suite. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment. Voilà, on a une petite. C'est vraiment amusant et c'est intéressant. Comment est arrivé le projet Salaryman et comment est-ce qu'il a évolué? Je sortais d'une aventure aux éditions Glénat avec mon livre Koryu Dedo qui était publié voilà, dans la collection Carré, qui était dirigé par Paul Hermant. Et suite à cette publication, le rituel veut qu'on remonte un dossier pour faire les démarches auprès des éditeurs. Donc, ça veut dire qu'on doit refaire des planches, qu'on doit imaginer une histoire. Donc, ça inclut tout un panel de dessins qui sont des caractères design de personnages, des choses dans ce genre-là. Enfin, c'est le rituel classique pour republier un livre. Et je m'étais pris une série de vestes de la part des éditeurs. Et souvent, les réponses qui m'étaient envoyées étaient déconcertantes. On me disait que mon sujet n'était pas assez sexy. Et puis ça se passait en Belgique, à Bruxelles. En fait, j'avais imaginé un projet qui se déballait sur plusieurs tomes, mais qui se passait vraiment en Belgique, dans les Ardennes belges, tout ça. Et les réponses. Quand je lisais ça, je trouve ça tellement déconcertant, je me dis, mais comme s'il fallait presque avoir honte de ce qu'on aime et de ce qu'on est. Il fallait proposer des trucs soit aux États-Unis ou même en France, à Paris, j'en sais rien. Et là, c'était beaucoup plus vendable. La Belgique n'était apparemment pas assez vendable. Moi, je suis né à Bruxelles, je suis bruxellois et j'ai juste envie de parler de ce que je connais le mieux. Je n'ai pas envie de détourner le regard vers autre chose. Pour le Japon, j'ai parlé du Japon parce que quand j'étais petit, j'y vivais à Watermael-Boitsfort et on avait beaucoup de Japonais dans le quartier. Un de mes meilleurs copains de classe était japonais et j'avais grandi avec toute cette espèce d'imagerie et iconographie. Donc j'étais très à l'aise pour parler de Koryu Dedo et là j'avais envie de parler de Bruxelles. Et donc, bref, tout ça m'amène à reconsidérer la chose. Et c'est vrai qu'en parlant avec pas mal de confrères et consoeurs, j'entends souvent que les projets ne se font pas parce que les éditeurs n'ont jamais adhéré au projet. ce qui signifiait en filigrane qu'un éditeur a droit de vie et de mort sur un projet. Si personne ne finance, le projet ne se fait pas. Et à l'époque, pareil, on n'a pas encore le système de crowdfunding comme on a aujourd'hui et tout ça. Donc. Et moi, je trouvais ça assez épouvantable, en fait, comme situation, parce que moi, j'aime la liberté, j'ai besoin de liberté. Il n'y a rien, c'est le plus grand luxe du monde, c'est d'être libre. C'est ça pour moi le luxe, c'est ça pour moi la richesse, c'est vraiment la liberté. Et en discutant avec Philippe, on était à un drink de la Kryptonique à la sortie de Au-delà du cliché, un autre numéro consacré à la photographie, au roman graphique, au roman graphique, à la photographie, au roman photo. Et Philippe balance comme parce qu'on se dit, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire maintenant? On est avec David Wautier, si je me souviens bien. Et on se dit, qu'est-ce qu'on ferait maintenant après ça? Et Philippe dit, bah, on pourrait peut-être faire des pockets. Donc des pockets, des petits livres qu'on met en poche, qu'on pourrait acheter pour pas très cher, etc., etc. Un peu dans la veine des masures. Ben, je réfléchis à l'idée aussi de mon côté. Le temps passe, on se quitte là-dessus. Et donc, je me trouve un carnet que j'avais chez moi, un petit carnet noir. Et là, je dessine dedans les premières pages de ce qu'allait devenir Salaryman, mais à l'époque, ça s'appelait G-Samurai. Et donc, c'était juste au Rotring, c'était en noir et blanc. Ça n'allait pas devenir le livre que c'est maintenant. Et voilà, on se revoit avec Philippe, on discute. C'était en 2013 qu'on travaille là-dessus. On commence. Les premières lignes sont tracées en avril 2013, si je me souviens bien. J'avais noté la date dans l'ouvrage. Et c'était assez amusant parce que finalement, le Salaryman était fini de dessiner en avril 2017. Donc tout pile 4 ans d'écart entre les débuts et la fin. Et on refait une réunion à la crypte avec d'autres confrères et consoeurs. Je pense que Francesco De Fournier était déjà là. Des gens comme Stéphane Goblet étaient passés aussi, des dessinateurs. Je pense Alex Séverin aussi était dans le coup au départ. Il y avait pas mal de dessinateurs qui répondaient en tout cas à l'appel de vouloir faire des pockets. Et bon, le temps, il a fallu beaucoup de temps avant que ça s'embraye. Et donc j'ai commencé par travailler sur pas mal de versions. Donc c'est assez curieux parce que Salaryman a évolué peut-être un peu comme un film. Alors il faut savoir que je travaille toujours avec des garde-fous autour de moi. Sur Corio Dedo, c'était le dessinateur et scénariste Étienne Schrader qui m'a accompagné sur Corio. Il a fait un peu comme un producteur en musique ou au cinéma, c'est-à-dire qu'il vous tape sur l'épaule pour dire écoute là, ce passage-là fonctionne pas, revois les choses, etc. Même si je suis en quête de liberté, c'est pas pour ça que je veux une liberté de dessin en reniant les repentirs graphiques et artistiques que j'ai. C'est important d'avoir quelqu'un autour de soi, avec soi, pour pouvoir vous aider à avancer. C'est super important. Et Étienne Schrader a fait ce travail-là avec Corio Dedo. Et pour le Salaryman, c'était Philippe Capard qui m'avait accompagné sur le projet. On avait fait de nombreuses réunions ensemble. Philippe, c'est un dessinateur compulsif. Pendant qu'il vous parle, il dessine. Il dessine ce qu'il vous dit. C'est pas pour vous être sûr que vous comprenez bien, mais c'est sa manière de prendre des notes. Il va pas prendre des notes en écrivant, il va prendre des notes en dessinant. Et à partir de là, on a abattu pas mal de notes, de dessins, de planches. Au départ, le personnage que j'avais fait était un simple gars habillé en costume. Non, il était d'abord habillé en samouraï. Ça s'appelait G-Samouraï. Et après, on l'a mis en costume. Comme ça, en discutant avec Philippe, bah oui, ce serait bien de mettre un peu un décalage dans la narration. Le gars est habillé en costume. Et puis d'abord, c'était juste un physique d'un type lambda avant d'aller vers un espèce de monolithe. Qui est presque comme une ombre. Au départ, il parlait, il faisait des cris, il se battait, puis après, il est devenu muet. Et devenu muet, je repensais au personnage de Moebius Arzak qui était muet et mutique. Et vous savez, c'est dans la narration un personnage qui ne parle pas, on ne sait pas ce qu'il pense. Et je trouve que ça donne davantage d'épaisseur dans une narration. Donc du coup, le personnage de Salaryman ne parlait pas. Et ça a amené une certaine épaisseur. Donc en évoluant là-dedans, ensuite, il a eu toutes les pages qui ont été dessinées. Donc il n'était pas vraiment question d'estampes japonaises. Après, c'est évidemment avec Philippe, on discute. Et c'est vrai qu'après, après coup, comme Philippe me dit, va vers l'estampe, c'est ce que tu fais le mieux, ça fonctionne bien. Et donc, du coup, on est allé vers ce mode-là. Et donc, ça a été vraiment, de 2013 à 2017, c'était très excitant parce tout était à faire, tout était à créer. Il n'était pas vraiment question de Blue Book ni rien au départ. Tout ça est venu au fur et à mesure. On disait, tiens, même le texte, après Philippe, tiens, c'est vrai que ce serait pas bête de le mettre en japonais, parce qu'on parlait de cinéma. On parlait de montage, en fait. Et de monter le livre comme un film. Et après, évidemment, le rapport image-texte, souvent, les films originaux sont sous-titrés. Donc on s'est dit, tiens, bah oui, pourquoi est-ce qu'on ne sous-titrerait pas Salaryman? Et donc ça, j'avais utilisé la vieille machine à écrire de mon arrière-grand-tante. Elle était décédée à 102 ans et avait dit, voilà, quand je ne serai plus là, vous filerez la machine à écrire à Dimitri. J'avais réutilisé la machine à écrire pour Salaryman. Ça avait du sens. On voulait un texte mécanique, mais qui est quand même une forme de côté charnel, et cette machine à écrire proposait ça. Donc on va dire que la machine de temps de fusil propose un côté charnel comme elle l'était elle-même. Et ensuite, le livre a commencé à se monter d'abord à des formats différents, parce qu'évidemment, il était dans des grands formats, des petits formats. On n'est pas allé tout de suite vers le modèle Blue Book. C'était André Mounz de Seraphine Graphics qui travaillait avec acharnement. Et tu sais qu'on a eu de la chance d'avoir André sur le coup, parce qu'on n'aura jamais pu arriver à ce qu'on a aujourd'hui. André imprimait. Alors d'abord, il avait fait vraiment un modèle martyr où il était marqué imprimé in the pocket. Il avait écrit ça pour rire. Moi, je trouvais que ça aurait fait presque un bon titre de nouvelle plateforme éditoriale, c'est la plateforme In the Pocket. On n'est pas tout de suite allé vers Blue Book par rapport au nom. Et je pense qu'il y a à peu près 6 ou 7 modèles de différents qui est sorti, mais Philippe avait dans sa collection des ouvrages de différents formats. Il y avait un livre paquet de cigarettes, mais qui était avec des photos chinois de Chine. C'était des gens en Chine qui fumaient des clopes, je crois. Et c'était des photos qui recensaient tout ça, je pense. Et qui étaient dans une étui de cigarettes. Et qui était un livre cigarette dans un étui de cigarettes. Donc il y avait ça, il y avait des tas d'autres choses. Moi j'avais des petits manuas qui m'avaient été ramenés par des amis. Et donc à partir de là, il a fallu faire un peu le ménage et dépoussiérer tout ça. Vers quoi est-ce qu'il fallait aller? Et donc au final, je pense que sur Salaryman, j'ai peut-être sur les 180, 190 pages, j'ai peut-être 400-500 pages de dessin, de planches. En fait, on a vraiment, c'est un luxe. Je pense, je sais même pas si beaucoup de gens pourraient se permettre aujourd'hui, surtout dans le monde de l'édition, c'est-à-dire qu'on a dessiné 3 ou 4 fois le livre. Je dis on parce que Philippe était toujours à mes côtés et on discutait. C'était une discussion constante et c'était j'appelle ça de la jam session graphique, parce que et on jammait quoi. C'était des jams qu'on faisait ensemble. On discutait, on se lançait les idées à la figure et à partir de là naissaient des choses. Peut-être comme faisaient les Beatles lorsqu'ils étaient en studio, ils jammaient ensemble. Et je pense que c'est ce que j'ai vécu avec Philippe. On jammait à deux, quoi. Savoir qu'au départ, on était juste à deux, à jammer. Il n'y avait pas encore une équipe après qui est venue. Donc on discutait et on regardait vers quoi il fallait aller. Et ensuite, on a monté donc le livre comme un film, c'est-à-dire que à un moment, Philippe a fait le rôle de monteur, s'est dit, tiens, on pourrait peut-être inverser tel passage, mettre tel passage, etc., etc. Et on a commencé à refaire le ménage dans les pages. Et moi, j'ai redessiné des pages, etc., etc. Pour ensuite avoir quelque chose qui semblait tout à fait au point. Et lorsqu'on a, par exemple, réimprimé des prototypes, en leur lisant, etc., etc., en leur reparcourant, on se dit, ah, il faut remettre des passages. Comme au cinéma, en fait. Quand vous prenez un film, vous avez genre, comme pour Apocalypse Now, vous avez je ne sais pas combien d'heures de rush, combien de kilomètres de bobine, pour finalement arriver à 3 heures de film, alors qu'en fait, il y a peut-être, je sais pas, plus de centaines d'heures qui ont été prises. Et quand ils font la projection test, ou ils font la projection entre eux, ils disent, il faut retourner des scènes pour pouvoir rendre ça cohérent. Et ici, lorsqu'on a réimprimé un prototype, j'ai redessiné des scènes, j'ai refait des choses, etc., pour essayer d'avoir quelque chose de plus linéaire possible. Alors maintenant, la démarche aussi par rapport à Salaryman, c'est qu'il n'y a pas de grille de lecture. Les gens encaissent le livre comme il vient. Je ne vais pas expliquer ce qu'ils doivent comprendre ou pas comprendre dans Salaryman. Il n'y a pas de... Les gens encaissent l'histoire comme ils le veulent. La lecture d'un livre, c'est quelque chose de très intime. C'est-à-dire que quand vous avez le livre en main, par rapport à votre vécu, vous allez encaisser l'histoire comme elle vient. Et chaque personne ne va jamais adhérer de la même manière à une dramaturgie. Même si vous avez tous les deux aimé le livre, vous n'allez pas aimer le livre de la même manière. Parce que vous avez quelque chose d'intime avec ce livre. Vous vivez quelque chose d'intime. Et moi, en tant qu'auteur de Salaryman, je n'ai pas à me substituer à l'intime que les gens vont avoir dans les mains de ce livre. S'ils le détestent, c'est leur droit. S'ils n'adhèrent pas, c'est leur droit. Et parfois, des gens vont même aller très loin dans l'analyse du livre, ou ils vont même dire des choses sur lesquelles je n'avais pas idée, ou que je n'avais pas d'intention d'aller vers ce sens-là, mais c'est normal, c'est mon vécu, c'est mon intime à moi, et je couche ce que j'ai en tête sur le papier, et si quelqu'un qui lit le livre l'encaisse différemment, bah c'est son droit et c'est normal. Et je n'ai pas à toucher à ça. C'est quelque chose de sacré. Et donc on sort des premiers prototypes en 2017 pour la fête de la bande dessinée. C'était très touchant parce que j'avais été chez André Mounce. Alors j'ai une petite histoire avec André Mounce et son épouse Séraphine, c'est que j'avais acheté des petits cellophones parce qu'il fallait se dire comment est-ce qu'on va mettre les machines dans les distributeurs. Alors les distributeurs, c'est pareil, juste parenthèse, c'est parti d'une boutade de Philippe qui dit bah, on pourrait mettre des distributeurs. Et les distributeurs sont arrivés à ce moment-là. Et il a trouvé un distributeur dans une ancienne Ouasserette. Quand les gens achetaient le livre, ils sentaient bon la lessive. Comme je disais tout à l'heure, qu'un livre est olfactif, il a une histoire. Quelque part, Blue Book a une histoire avec une ancienne Ouasserette. Et alors, du coup, j'avais acheté des cellophanes pour mettre les livres dedans, pour ne pas les abîmer lorsqu'ils allaient tomber ou pour ne pas les salir ou que sais-je. Il fallait quand même trouver une astuce. Et Séraphine, en fait, j'emballe d'abord les livres en cellophane et l'épouse d'André m'engueule un peu, mais elle m'engueule de façon affectueuse, pas c'était pas une engueulade. Elle dit, mais non, regarde, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Et donc, du coup, on se retrouve à emballer les 150 exemplaires à deux, Séraphine et moi. On les plonge dans le cellophane et puis elle l'emballe bien. Et à chaque fois, elle me dit, tu vois, c'est comme ça qu'il faut faire. Et alors, quand je pense à la fête de la BD en 2017, c'est la première chose que ça me rappelle, c'est la gentillesse extrême que Séraphine a eue vis-à-vis de moi. Où elle emballait ses livres avec extrêmement de bienveillance. Et ça me touche beaucoup. Ça me touche beaucoup de repenser à ça. Et elle a vraiment. Et je me retrimballe avec ses livres jusqu'à la fête de la BD, bien, bien emballés dans le cellophane. Donc, on va dire que voilà un peu tout le processus de création entre le début et maintenant. Et ce luxe énorme qu'on a eu, évidemment, de monter ce livre comme un film. Je pense qu'il n'y a pas de. Il y a peu d'endroits éditoriaux qui permettraient, en tout cas, de structure éditoriale qui permettrait ce qu'on a fait. En plus, avec les moyens qu'on avait, c'est qu'on n'avait pas de moyens. Il a fallu prendre sur soi pendant quelques années, réfléchir. Quand je faisais le salaryman, évidemment, tout était à faire au niveau du Blue Book aussi. Tout n'était pas défini. Tout n'était pas clair et donc il a fallu chercher. Les 4 années de travail sur le salaryman n'étaient pas uniquement 4 années de travail sur salaryman, c'était également 4 années de travail sur le format. Qu'est-ce qu'on allait, quel chemin on allait prendre avec Philippe. Olivier Van Varenberg, lui, il arrive justement à la fête de la BD en 2017. Et Francesco arrivera dans l'équipe au lancement de manière industrielle en 2019, l'été 2019. Donc tout s'est construit au fur et à mesure, pas à pas. Tout n'est pas arrivé d'un coup comme on l'a aujourd'hui, évidemment. Il faut laisser le temps au temps. Et donc oui, le rôle de Philippe, il a été multiple. Le rôle de la kryptonique a été multiple sur Salaryman. Comme je le disais précédemment, c'était des jam sessions graphiques, c'était des relectures, c'était un rôle de producteur comme dans le monde de la musique ou dans le monde du cinéma, vraiment nous taper sur l'épaule pour dire, écoute, cette partie-là, elle ne sert à rien, enlève-la, ou des choses en genre là. Toute cette période est recueillie en témoignages graphiques, puisque j'ai conservé évidemment toutes les notes de Philippe. C'est un trésor à avoir, à relire, à découvrir. Je pourrais même refaire un bouquin avec tout ce qu'il a produit dans ses dessins. Philippe, c'est un putain de dessinateur, hein. Il est très fort. Il y a quelque chose de très spontané dans le trait que je lui jalouse un peu. Il a un jet et une facilité de dessin qui sont formidables. Et donc oui, il fallait que je garde ces témoignages graphiques. Ce serait totalement de la folie de balancer ça au bac. Il faut conserver, je les conserve aujourd'hui encore comme un trésor et un témoignage graphique. Il a eu un rôle donc de Tento aussi. Ce sont ces éditeurs japonais qui interviennent vraiment.
Dans les questions qu'on a posées à Dimitri, il y avait aussi de lui demander son rapport à l'estampe japonaise, qui est quand même assez forte aussi dans son livre Salaryman.
Alors, le Japon, en fait, les estampes japonaises, tout ça découle d'abord d'une rencontre entre moi et un camarade de classe quand j'étais petit, et également le fait que je vivais à Watermael-Boitsfort. Je vivais pas loin de l'école japonaise qui est située à Delta. Et donc, on avait pas mal de Japonais qui vivaient dans le quartier, ou qui passaient par le quartier, ou qui passaient dans le coin. Donc j'ai été très marqué et impressionné par ça. C'était une très belle langue, c'était riche. Et alors mon camarade de classe, quand j'allais chez lui, bah, c'était un choc culturel. On n'avait pas Internet ni rien à l'époque, on est dans les années 80. Dans les années 80, l'information, elle n'a pas comme ça. Ça demande un réel effort. Et donc je vais chez mon camarade de classe qui s'appelle Koji, et je vais chez lui, et bah, c'est un choc culturel. Même au niveau de la disposition des mobiliers ou des tas d'autres choses comme ça, il y avait quand même des choses différentes, quoi. Et comme je vous dis, c'est aussi une question olfactive, c'est-à-dire que la nourriture qu'ils préparent est différente et tout ça. Donc, je veux dire, le choc culturel, pour moi, il était avant tout humain. L'influence du Japon, elle était avant tout humaine. Ce n'est pas arrivé avec l'arrivée du manga. Ou des animés ou des choses comme ça. On était dans les années 90, une concentration très forte de publications de bandes dessinées japonaises, une sortie très forte fin des années 80 et toutes les années 90 sur les animés provenant du Japon. Et moi, j'ai vraiment pas eu cette. Je suis pas arrivé au Japon par ce biais-là. Je suis vraiment arrivé par le Japon sur le point de vue humain. Et donc ça a toujours été là. Ça a grandi un peu en moi, tout doucement. Et avec mes études à l'école, bah, je faisais beaucoup de travail sur le côté de la rigueur, l'académisme. Mais le problème que j'ai avec la rigueur et l'académisme qu'on nous enseignait sur les bancs d'école, c'est que je trouvais que ça perdait en naturel. Ça perdait en spontanéité et ça rendait les choses statiques. Là où je voulais, pas du mouvement, mais je voulais prendre mes distances avec tout ça. Et Et au fur et à mesure, j'ai commencé à travailler là-dessus. Et le UQA, le mouvement UQA, permet ça. Il permet de prendre ses distances avec pas mal de choses. Il permet d'amener quelque chose de différent dans la diagonale d'une composition. J'ai beaucoup de mal parfois dans certains livres de bande dessinée qui sont publiés, quand on sort on appelle ça des compléments graphiques. Et dans ces compléments graphiques, on voit des recherches de dessins, etc. Et on voit vraiment des croquis, quoi. C'est censé juste être des croquis qui sont vachement bien charpentés et ultra léchés, quoi. Moi, j'appelle ça la musculation. C'est vraiment, c'est quand on est devant le miroir dans une salle de sport et qu'on se regarde en train de soulever des haltères, quoi. Il y a ce côté-là qui me dérange un peu. Et moi, je suis pas du tout là-dedans. Moi, j'aime bien les repentirs, j'aime bien les faiblesses. J'aime bien quand un dessin est un peu mal construit parfois parce qu'il révèle quelques failles qu'on a en nous. Alors, c'est un peu contradictoire parce que j'essaie de me donner à fond pour parfois construire un chouette dessin, mais une fois, je me souviens, j'avais fait une exposition dans un musée à Châlons-en-Champagne et mon épouse me dit, mais pourquoi est-ce que tu exposes ces gravures? Parce qu'elles ne sont pas non plus extraordinaires, quoi. Et puis en plus, tu exposes quand même dans une expo où il y a quand même du beau monde, pourquoi tu fais ça? Et je lui dis, mais c'est aussi le rôle d'une exposition de montrer un travail en cours de recherche. On n'est pas obligé de montrer toujours des trucs bien finis ou bien définis. Et le UQA m'a vraiment aidé à ça. C'est un média qui permet ce genre de choses. De prendre ses distances de ce qu'on a appris. Parce que quand on sort des études, on passe notre vie à oublier ce qu'on a appris. On passe notre vie à essayer de tuer le maître, à tuer le père. Et par essence de notre éducation, évidemment, on est bien trop attaché à nos racines que pour tuer le père ou tuer le maître, mais on essaye quand même de le faire. Et le travail sur le UQA me permet beaucoup de choses. Donc, d'une manière ou d'une autre, j'ai pris mes distances avec le vieil académisme européen que j'ai pu apprendre sur les bancs d'école pour aller vers une autre forme d'académisme, mais qui est de l'autre côté du globe, où là j'ai pu plus m'épanouir par rapport à ce que je cherchais à raconter. Le média en moi, en ça, et je trouve le média en ça, en soi, il est formidable par rapport à ça. Quand je travaille sur une composition, je réfléchis à la place que le vide va prendre. Le vide occupe une place centrale pour moi. Pour moi, l'équilibre, il est là. C'est marrant, il y a eu ce film The Fabelmans qui parle de la vie de Spielberg, où on voit David Lynch prendre le rôle de Ford, le réalisateur, et il lui dit, tiens, mais où est la place de l'horizon sur telle toile? Et il dit, bah, elle est en haut, bah, il a la place de l'horizon, là, elle est en bas, sur l'autre tableau. Et il lui dit, retiens bien ceci, quand l'horizon est en haut ou en bas, c'est intéressant, et puis quand elle est au milieu, c'est juste chiant en fait. Et c'est marrant parce que c'est un peu ça que le UQA travaille aussi. C'est vraiment quelle dynamique l'horizon va occuper dans l'espace. Donc, et pour les couleurs, le travail des couleurs, moi j'aime bien travailler sur des couleurs un peu passées, mais en me donnant une forme de dynamisme avec des traits de couleurs. C'est vrai qu'un de mes fantasmes, ce serait vraiment de revenir vers l'estampe pure, quoi, c'est-à-dire avec la gravure sur bois. Ici, je passe parfois par des procédés informatiques. Je triche un petit peu parce que pour avoir les effets vieillis dans les dessins que je fais, normalement, il faut laisser le temps au temps, c'est-à-dire que c'est vraiment le temps qui fait le travail d'avoir cet effet-là. Et bah, là, je travaille de manière informatique pour avoir ces éléments-là. Après, voilà, il y a le trait, il y a le dessin, il y a les recherches couleurs, il y a toute la partie vraiment artisanale qui existe, mais j'aimerais bien une fois avoir l'opportunité de travailler sur des vraies estampes. Ah oui, c'est exact. Je suis intervenu sur d'autres Blue Books que le mien. Pour le Dick Boss, en fait, de Mazur, l'idée, c'est que Philippe avait des contacts qui disposaient de certains exemplaires d'un Dick Boss inédit qui était apparemment sorti sur le marché francophone. Et bah, malheureusement, les seuls exemplaires qui étaient en possession de certains collectionneurs, ils ne se sentaient pas prêts à mettre ces exemplaires à disposition pour qu'on puisse les scanner ou quoi, à raison sûrement qu'ils avaient peur qu'on malmène en fait l'ouvrage ou qu'il soit altéré par les manipulations. Surtout vu la fragilité sûrement de certains ouvrages et leur rareté, évidemment, ça peut davantage susciter la crainte. Alors Philippe avait pris finalement le choix de prendre le jiu-jitsu et de pouvoir le publier sous Blue Book. Donc moi j'avais pris l'ouvrage et donc je l'ai comme on disposait pas d'originaux ni rien, il a fallu repartir de la copie. Et donc j'ai démantelé en fait le livre. Alors c'était très délicat parce que le livre a plus de 50 ans, le papier est fragile et les agrafes étaient quand même assez grandes pour maintenir le livre. C'est un acte assez violent hein, de démanteler un livre de 50 ans. Il faut vraiment faire preuve d'une certaine, je vais pas dire humilité, mais en tout cas de manipuler l'objet avec beaucoup de respect et beaucoup de délicatesse. Donc j'avais démantelé le livre, découpé les pages une à une soigneusement. Et ensuite, j'ai scanné l'ensemble du livre. Il a fallu le scanner, j'étais quand même assez outillé pour ça, donc j'avais pas de problème avec ça. Scanner l'ensemble du livre, et ensuite il a fallu restaurer l'ensemble des pages. C'est-à-dire que quand vous le scannez le livre tel quel, ben, vous avez le papier jauni, tout ça qui est là, les taches du temps qui sont dans le dessin, sur le papier, des choses comme ça. Il a fallu faire c'était un gros boulot de restauration. C'est-à-dire que déjà j'ai mis l'ensemble des planches en noir et blanc. Et ensuite, sur le travail de restauration, alors attention, je n'ai pas touché au trait de masure. C'est pour moi absolument proscrit. Par contre, toutes les trames autocollantes, les gris, les effets de gris, enfin les effets de gris qu'il y a dans le dessin, les scènes d'obscurité, de nuit, il y a des endroits où il y avait des taches blanches parce que le dessin s'était enlevé avec le temps sur le papier et tout ça. Donc il y a eu un gros, gros boulot de restauration sur le livre. Et ensuite, il a fallu remonter le livre et l'envoyer à André Mounce. André, c'est vraiment la personne qui a vraiment réceptionné l'ensemble des Blue Books pour vraiment rendre l'objet tel quel on le connaît aujourd'hui. C'est vraiment André qui a défini la finalité des ouvrages. Mais à côté de ça, j'avais envoyé tout le matériel à André pour qu'il puisse redéfinir tout. Mais pour le masure, voilà un peu mon intervention. Et c'est vrai qu'il fallait aller vite parce qu'on avait une date de la fête de la BD et on n'était pas encore tout à fait prêt. On avait un petit peu des attitudes d'étudiants en remise d'école d'art quand il fallait refaire une remise de boulot. On allait un peu à l'arrache à la dernière minute. Et donc, il a fallu mettre ça en place. J'étais intervenu également sur le livre de Nuit sur l'Allemagne, où il a fallu remonter le livre aussi, l'ouvrage, parce que les fichiers n'existaient pas. Donc Samuel Desgardins nous avait mis à disposition de mémoire l'ouvrage, des scans de l'ouvrage, ou en tout cas des fichiers. Donc il a fallu tout remettre en place. Et il a fallu d'abord aussi, surtout, c'est de me demander l'autorisation aux ayants droit. Et donc ça, je m'en étais occupé. Et heureusement, les ayants droit nous ont très aimablement donné l'autorisation et surtout, ils nous ont laissé gracieusement. Ils n'ont pas demandé d'argent en échange. Comme on était une petite structure qui démarrions, il fallait absolument éviter les dépenses fortes au départ pour pouvoir nous permettre de subsister. Il ne fallait pas commencer non plus endetté jusqu'au cou. Ce geste de la part des ayants droit du créateur de Nuit sur l'Allemagne, je pense que j'ai dit Karl Meffert, c'est Karl Meffert donc, qui a fait négocier avec les ayants droit. Ce geste de leur part, en fait, était vraiment important. Et ça nous a permis de pouvoir avancer léger, quoi. Et c'est vrai que la couverture, par exemple, c'est. Alors, je veux un petit point sur la couverture parce que je ne pense pas que ça a été vraiment mentionné, mais j'avais posé ce choix de la couverture parce que elle m'a fait furieusement penser en fait à une couverture de disque qui s'appelle King Crimson Project, du groupe King Crimson. Et il faut savoir que le dessin de Meffert, il est antérieur à la couverture du King Crimson. Le dessin de Meffert date des années 30 et celui de King Crimson date évidemment des années 60. Mais cette couverture de disque de King Crimson, elle est méga culte aujourd'hui. Et alors, je m'amuse à me dire que peut-être que l'auteur qui est décédé aujourd'hui de ce dessin a peut-être vu passer des dessins de Meffert et que ça l'a influencé. Alors, ensuite, j'ai travaillé sur la mise en couleur du. Je n'ai pas beaucoup intervenu sur le livre de Francesco, je pense que j'ai juste mis du jaune dans sa couverture. Il m'avait demandé, pareil, c'était juste une question que j'avais lu les outils pour le faire. Pour le livre de Pluton de Quentin Roux, en fait, Quentin avait livré un livre remarquable, mais il était en noir et blanc. Et l'histoire de Pluton, c'est que c'est un dédale sur Pluton. Ça veut dire qu'on circule sur Terre, sous Terre, etc. Et le dessin de Quentin Roux, il est juste dingue. Il a un dessin incroyable. Il a un trait nerveux et riche. Et j'avais juste peur qu'on passe à côté du sujet parce que pour moi, le livre de Quentin Roux, Pluton, est un des plus ambitieux de chez Blue Book. Parce qu'il permet une forme de liberté dans quelque chose en général qui est un rail bien établi. Quand vous avez un livre entre les mains, bah, vous allez du début à la fin. Et quelque part, bah, vous acceptez cette convention de tourner les pages au fur et à mesure et d'aller jusqu'à la fin. Et vous laissez prendre par la main. Et indirectement, le livre de Quentin, il permet une certaine liberté, c'est-à-dire que vous décidez vous-même de prendre votre chemin dans un livre pour arriver à son terme. Et donc, voyant vraiment qu'il y avait vraiment un grand travail d'ambition et un grand travail de recherche derrière, j'ai juste demandé à Quentin s'il serait d'accord qu'on mette le livre en couleur, si ça lui semblait pertinent. Et je lui ai proposé de lui soumettre quelques tests, évidemment, avant, parce que l'idée, comme de Blue Book, c'est que l'auteur reste maître de son ouvrage. L'auteur reste maître du livre. Mais voilà, je ne voulais pas que ça tombe, que tous ces efforts qu'il avait mis en place tombent à plat. Et donc, j'avais mis le livre en couleur. Et on avait également un peu touché au trait, c'est-à-dire qu'on a mis juste le trait un peu en bleu. On a mis un peu de bleuté. Dans le trait, on a fait quelques effets de distance, mais là, on pouvait au moins avoir le sentiment qu'on était sur Terre, sous Terre, etc. Et on avait un peu bossé aussi avec Quentin et Francesco De Fourny était aussi dans la team hein, pour travailler sur l'édition du projet. Et c'est vrai que là, ça avait du sens tout d'un coup. On sentait qu'on voyageait. Et puis après, il a fallu juste resserrer quelques boulons pour que le livre soit tout à fait fluide dans sa lecture. Et il y a des petites discussions de base sur les couvertures et des choses comme ça pour arriver au résultat que Quentin a livré au final. Et qui, voilà, je trouve que c'est vraiment. C'est un auteur qui devrait sortir d'autres choses, je trouve, parce que c'est vraiment un auteur intéressant. Et pour terminer, je pense que j'ai travaillé également bah, sur le livre Le Grand Ami, où j'avais embrayé les premiers contacts avec la fondation Gabriel Vincent, Monique Martin, puisqu'j'avais des contacts assez privilégiés avec eux, puisque j'ai pu scanner l'ensemble du livre L'œuf et Picnic, le petit personnage Koala qui avait été créé par Gabriel Vincent avant. Et donc l'idée, c'est que. Quand j'ai eu des contacts avec eux, ils m'ont dit, bah, en fait, j'avais rencontré Minatou lors d'une formation sur le mécénat d'entreprise. Et elle avait dit un truc qui était resté dans mon oreille. C'était juste avant la sortie du film Ernest et Célestine. Elle m'a dit, on a 10 000 pièces dans les archives. Et je me dis, c'est juste formidable d'avoir 10 000 pièces dans les archives. Et à l'époque, bah, on ne les trouvait pas encore sur le. dans les galeries de vente. Et en reprenant contact avec Emeline, elle m'a dit, bah oui, on voulait d'abord peut-être faire un cryptonique avec Emeline sur donc Monique Martin, le nom de naissance de Gabriel Vincent. Et bon, ça ne s'est jamais fait pour des raisons de timing ou autre. Mais on a gardé contact et elle me dit, voilà, j'ai ces pages qui ont été dessinées, qui sont dans les archives. Et donc voilà, après, ça a permis quelque part d'embrayer sur un blue book consacré à ce livre, Le Grand Ami. Et pour terminer, oui, il y a encore un blue book qui dort dans mon ordinateur, puisqu'il y a eu l'idée de publier un Franz Masrel. Et donc il y a un Franz Masrel qui doit dormir dans mon ordinateur depuis. Donc il y a un Franz Masrel qui dort dans mon ordinateur depuis 5-6 ans, que j'ai mis en place avec Samuel Desgardins. Donc Samuel vraiment m'a aidé dans la disposition du matériel, tout ça, et on a fait ça à deux, Samuel et moi. On a travaillé à deux sur ce projet. Et j'espère qu'un jour il verra le jour ce livre parce qu'il a vraiment de la gueule. Et enfin, le travail de Masrel a de la gueule. C'est pas moi qui ai. Moi, j'ai juste fait la transmission d'un support à un autre. C'est tout ce que j'ai fait. Donc voilà. Voilà un peu ce que j'ai pu faire au sein des autres Blue Books. Et j'ai essayé d'aider en tout cas du mieux que j'ai pu en essayant de garder une certaine distance, mais voilà.
Donc Dimitri était là dans Blue Book et au moment où c'est devenu une association, une ASBL sans but lucratif en 2020, il n'a pas adhéré avec le groupe qui était là, donc Philippe Cappard, Francesco De Fourny et Olivier Van Varenberg, et c'était quand même de lui demander pourquoi il n'a pas suivi l'aventure à ce moment-là.
C'est une question délicate. C'est une question délicate parce que j'estime que les ondes radio n'ont pas à servir de conseiller conjugal entre personnes qui ont des divergences de point de vue. Je ne souhaite pas non plus prendre en otage les auditeurs et les auditrices qui écoutent cette interview. Alors je vais essayer d'y répondre partiellement parce que pour celles et ceux qui voudraient lancer un projet entrepreneurial, éditorial ou autre, c'est toujours intéressant parfois d'avoir un feedback, d'avoir un ressenti sur des expériences communes, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Mais d'avoir un feedback sur le sujet. Alors l'une des raisons qui est pour moi la semble plus évidente, c'est que sur un point de vue administratif, Blue Book n'était pas au point. Ça tenait pas la route. Et c'est pas un sentiment personnel, c'est purement factuel. Le premier exemple qui me vient à l'esprit sont les contrats d'édition. Lorsqu'on a lancé Blue Book en 2019, il faut savoir qu'on n'avait pas de contrat d'édition. Les premiers contrats d'édition finalement ont été signés en 2022. Ce qui pour moi était une folie, parce qu'on avait quand même des œuvres d'ayant droit publiées chez Blue Book, et qu'il fallait être prudent. Si par hasard on se froissait avec un ou l'autre ayant droit, libre à l'ayant droit de dire ben non, vous retirez mon livre de la vente. C'est un gros pari, c'est un gros risque qu'on ne pouvait pas se permettre, surtout quand on lance un projet comme celui-là. Par exemple, la couverture du livre Karl Meffert, Nuit sur l'Allemagne, est en rouge. Le livre, en fait, est fait en linogravure et la couleur dominante est noire. Le rouge a été mis comme ça, sans certitude que la demande a été posée à l'ayant droit de voir si on pouvait changer le noir en rouge. Mais rien que pour cette raison, l'ayant droit pourrait retirer le livre de la vente, parce qu'on ne lui a pas demandé l'autorisation. Et qu'on pourrait dire qu'on porte atteinte à la volonté artistique de l'auteur, ce qui me semblerait même légitime presque. Un contrat d'édition, il sert à protéger les différentes parties. Il sert à protéger tant les auteurs et les autrices que les éditeurs. Plus un contrat est épais, bah plus en fait les éléments sont cadenassés et on peut trouver en fait une sortie dans le cadre d'un différend. Alors, attention que le contrat, il ne sert pas à arnaquer l'auteur, ça sert vraiment à défendre les uns et les autres. Dans le cas de Blue Book, à contrario, plus un contrat est court, plus il est sujet à interprétation. Et pour Blue Book, le contrat faisait une demi-page. Et j'ai soumis ce contrat, par exemple, à un service juridique, et ce service juridique m'a simplement répondu que ce contrat n'était pas légal. Les avocats ne sont pas là pour s'engraisser ou quoi que ce soit. Souvent, j'entends un discours parfois sur les avocats requins qui seraient là pour se faire de l'argent. Les avocats sont quand même là aussi pour aider, soit un point de vue juridique et soit un point de vue légal, des gens qui n'ont pas en fait toutes les clés et tous les outils en main concernant les lois. Et le cas de Blue Book et le cas des contrats est un des exemples les plus évidents. Concernant un autre point, c'était l'espace commercial de l'ancienne Kryptonique qui allait se mouvoir en Blue Book à la Galerie Mortier. J'avais insisté sur le fait que je ne souhaitais pas qu'on prenne cet espace commercial parce qu'on n'avait pas les moyens financiers de pouvoir financer non seulement et un espace commercial et l'édition des livres. L'argent qui était généré par Blue Book devait être réinvesti dans la création des livres et dans la publication des livres. Ici, on ne pouvait pas se permettre de payer un loyer en plus. D'autant qu'il n'y a pas uniquement le loyer, il y a également toutes les charges qui découlent de l'occupation de cet espace. Et surtout qu'à ce moment-là, je sentais des tensions qui étaient en train de naître entre la structure Blue Book et la régie foncière de la ville de Bruxelles. Donc, je trouvais qu'on avançait en terrain miné. J'ai demandé qu'on n'avance pas sur ce terrain du local. Et force de constater qu'on ne m'avait pas suivi, et qu'en plus de ça, je me serais retrouvé à signer un bail que je ne voulais pas signer. Donc, deuxième raison pour laquelle, par exemple, j'ai refusé d'adhérer à cette ASBL. Une autre raison encore était le fait d'acheter des machines. J'ai dit, on n'achète pas de machines. Il faut qu'on s'arrange avec une structure de parc de machines et qui a tous les contacts en main et qui puisse nous aider à avancer. J'avais par exemple trouvé les contacts avec une société qui s'appelle Gamaco, où la personne était tout à fait d'accord de nous suivre. Alors au départ, il était un petit peu réticent, parce qu'il faut savoir que dans le monde du vending machine, eh ben, les produits qu'ils vendent, ils sont obligés de les acheter ferme. Et lorsque j'ai été rencontrer cette personne, je lui ai dit, voilà, c'est une personne qui habite le Brabant wallon et c'est presque un voisin à moi. Donc le contact était simple, il était facile, on était du même village et ça donnait une proximité dans le dialogue. Et lorsque je lui ai dit, écoutez monsieur, on ne vous demande pas de financer l'achat de ces livres, au contraire, on vous les laisse en dépôt, ça veut dire que vous ne devez rien payer et non seulement vous les laissez en dépôt, mais en plus de ça, vous avez 20% sur les ventes. Tout de suite, le dialogue s'est changé parce que tout d'un coup, il ne veut pas financer quelque chose. Et dans ce cas-là, la prise de risque pour lui était minime. D'autant plus que les sociétés de vending machine souffrent d'une mauvaise image de marque, parce que ça représente de la junk food. Dans de nombreux lieux, par exemple, les machines automatiques ont été retirées, parce que justement, ce côté junk food n'est plus vraiment toléré. Et ça pouvait un peu redorer son image de marque. Et ce n'était pas une mauvaise idée. Ben, au lieu de ça, cette personne qui était OK de nous suivre demandait juste qu'on mette des QR codes sur les machines. On ne lui a jamais donné suite à sa demande et finalement le truc est tombé à plat. Alors que cette société, ce monsieur a des contacts de parc de machines dans le Liège, du côté de Liège, du côté de Bruxelles, du côté de Namur, dans le Brabant wallon. Ce qui fait que pour commencer le projet, ça aurait été une magnifique force de frappe et ça nous aurait permis de commencer en plus s'endetter de machines. Donc des machines qui sont financées aujourd'hui ne fonctionnent pas tout à fait. Donc les machines de chez Blue Book, les distributeurs blancs. Et en plus de ça, il faut financer un système de paiement qui est par carte bancaire. Donc ce système de paiement n'est pas gratuit, il y a une mensualité à payer. Donc on multipliait quelque part les frais qui allaient alourdir la viabilité de Blue Book. C'est pas possible d'avancer comme ça. Et enfin, l'une des autres raisons, je pourrais en citer des tas d'autres, mais je préfère rester concis malgré tout. Mais l'une des raisons, c'est qu'il y avait un problème d'ego au sein de l'équipe. Alors, attention, je ne suis pas en train de pointer l'un ou l'autre du doigt, c'est-à-dire qu'on cherche tous à exister au sein d'un projet avec nos sensibilités propres. On veut tous poser une vision, on veut tous raconter quelque chose et on a tous quelque chose à vouloir défendre par rapport à cette vision. Mais ce qui est important, c'est de bien savoir qu'il faut bien avancer en équipe. Et en regardant un moment le premier article qui est sorti sur Blue Book en 2019, c'était le magazine Trends Tendance qui consacrait une double page au projet, ce qui n'était pas rien. Ça nous faisait vraiment une belle visibilité. Et quand je regardais un petit peu cette double page, donc je la parcours, je la lis, je suis d'abord très content évidemment parce que c'est inespéré de pouvoir avoir une belle mise en avant comme ça. Je découvre en fait que mon nom n'apparaît nulle part et que le salaire même non plus n'apparaît pas. Donc c'est-à-dire que je suis totalement effacé de l'article et que je suis totalement hors des radars. Et ce genre de choses où je sens vraiment qu'il y a une drôle de volonté, en tout cas dans la communication. C'est une communication qui n'a pas été préparée au préalable en équipe. Je découvre, par exemple, dans l'un des derniers en date de la Libre Belgique, qui est sorti il y a un an ou deux, le même genre d'exercice où, en fait, tout le travail que j'ai pu faire au sein de Blue Book est occulté. Tout le travail que j'ai pu faire sur la restauration des œuvres du Mazur, ce que j'ai pu faire sur le Mazrel et la réflexion sur les formats qu'on a discuté avec Samuel Desgardins, avec Philippe Capard et André Mounz au départ, tout ça en fait est totalement occulté et toute l'expérience que j'ai pu décrire au début de cette interview a été réappropriée au nom de quelqu'un d'autre. Et c'est assez déroutant. Parce qu'il faut savoir une chose, que lorsqu'on travaille sur ce type de projet artistique et éditorial, c'est qu'il n'y a pas d'argent. L'argent, c'est vous qui le sortez de votre poche, qui le mettez sur la table. Dans mon cas à moi, lorsque je ne faisais pas rentrer de l'argent dans les caisses, c'était mon épouse qui finançait tout ça. Puisqu'elle dit, écoute, fais ce projet, j'y crois. C'est un super projet, ça peut le faire. Et évidemment, c'est la moindre des choses quelque part, que si on ne récupère pas d'argent, c'est qu'on puisse récupérer sa mise d'une autre manière. C'est important quelque part qu'on puisse avoir notre nom cité dans ce genre de projet, parce que si on veut à un moment ou à un autre aller voir d'autres partenaires pour mettre ses idées sur la table, si vous n'êtes pas mentionné ou si votre nom n'apparaît pas dans ce genre d'article et que vous vous en servez quelque part comme documentation pour vous servir à convaincre des nouveaux partenaires, bah, si votre nom n'y est pas, vous n'avez aucune légitimité, vous n'avez aucune crédibilité, puisque vous n'existez pas. Et ça, c'est quelque chose de très délicat. C'est quand on travaille en équipe, il faut bien avoir conscience de ne pas négliger les uns et les autres. Et petit problème au sein de Blue Book, à mon sens, parce que si vous regardez l'ensemble des articles de presse qui sont sortis qui parlent de Blue Book, l'ensemble du projet parle du projet en lui-même. Il parle des gens, des noms sont cités, mais il ne parle quasiment pas des livres eux-mêmes. Si vous faites une recherche sur certains titres, les titres, il n'y a pas vraiment d'article qui parle des titres. Alors moi, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai Yann Battens qui m'a consacré un article magnifique sur Salaryman. Et vraiment, j'ai une chance folle. Mais je n'ai pas trouvé vraiment d'article sur le Quentin Roux de Pluton ou sur d'autres ouvrages qui ont été faits. Certains ont été faits sur Nuit sur l'Allemagne ou sur le Dick Boss d'Alfred Mazur. Mais si vous cherchez vraiment des articles de presse qui sont sortis sur les autres Blue Books qui ont été faits, ben c'est difficile d'en trouver. Par contre, il est très facile de trouver des articles sur la structure éditoriale Blue Book et sur le projet en lui-même. Ce qui fait que je pose la question en fait, de savoir si on n'a pas transformé ce projet éditorial, cette plateforme éditoriale, en un espèce de gadget. C'est-à-dire, regardez, on trouve des bandes dessinées dans un distributeur. Le projet Blue Book n'est pas un gadget. C'est vraiment une espèce de plateforme de circulation pour les artistes pour pouvoir s'exprimer et qu'on puisse les trouver dans un paysage urbain de manière un peu singulière. Et je trouve que là, par contre, le projet a raté le coche. Voilà ce que je peux dire. C'est un petit peu long peut-être, mais je tiens, c'est un sujet et une question délicate. Et je ne sais pas si j'arriverai à répondre exactement. Dans le sens où les auditeurs et les auditrices puissent comprendre les enjeux de cette réticence. Comment est-ce que je vois les choses 5 ans plus tard? Je suis très mitigé. En toute franchise, je suis très mitigé parce que moi, j'ai pris la décision de quitter le projet en décembre 2020. En décembre 2020, ça faisait sûrement partie de mes résolutions à prendre pour l'année suivante. Mon épouse m'a dit, écoute Dimitri, je te demande rarement quelque chose dans le cadre de ton travail, mais quitte ce projet, parce que je te sens sous tension, je te sens tendu, et le climat familial, c'était pas bon pour lui, évidemment. Donc j'ai écouté mon épouse. Il y a un moment, quand vous êtes dans un cul-de-sac, ça sert à rien de foncer la tête contre le mur. C'est vous qui allez vous abîmer. Donc j'ai décidé de me dire, voilà, je me retire du projet, mais j'ai gardé le projet à l'œil depuis ces dernières années. C'est difficile d'avoir un regard dessus parce que je continue d'avoir des feedbacks très positifs. Quand j'ai été à Taïwan en décembre et janvier dernier, on a écoulé les livres de façon VV'. Il y a un public qui est là pour ça. Donc il y a quand même un vrai engouement qui est né autour du projet, mais en même temps, cet engouement s'est étouffé par rapport à peut-être un manque de prévision sur certaines choses. Donc, maintenant, je vais continuer d'observer ce qui va se passer au sein de Blue Book et j'espère vraiment que des choses étonnantes sortent de terre et j'espère être surpris.
Et enfin, une dernière question, puisque Dimitri est loin de nous, de lui demander qu'est-ce qu'il fait ces temps-ci? Quelle est son activité?
Alors oui, c'est exact, je réponds de cette interview au Japon. Là, je suis en ce moment à Fukuoka, c'est dans le sud-ouest du Japon. J'ai atterri il y a une dizaine de jours à Osaka, puisque j'étais là dans le cadre de l'Expo universelle de Osaka. Donc je participe à une conférence sur le pavillon belge pour le monde industriel de la mine. Alors, c'est pas anodin que j'ai participé à cette conférence parce que ça fait quelques années que je travaille sur un artiste qui s'appelle Yamamoto Sakubei, qui est un artiste qui a travaillé sur le monde de la mine. En fait, il était d'abord mineur, et puis ensuite il a passé du monde de la mine vers quand il avait 50 ans. Il est d'abord descendu quand il était gamin dans les mines. Hein. Il a commencé à travailler très jeune, et quand il a une cinquantaine d'années, il travaillait comme veilleur de nuit. Et là, il a commencé à raconter tout ce qu'il a vécu dans le monde de la mine. Et pendant des années, il a raconté, même sur des points de vue techniques, soit des points de vue social, sociétal. Il est mort en 84. Et en 2011, une partie de son œuvre, de ses travaux, ont été reconnus patrimoine culturel de l'UNESCO. Moi, je suis tombé un peu par hasard sur son travail en faisant des recherches Internet en 2011. 2013. Et donc j'ai décidé un jour de répondre artistiquement à son œuvre, en fait, de raconter la réalité minière européenne et belge, mais en tenant compte de ses créations, et en fait qu'on se fasse une espèce de ping-pong. Toute cette création, en fait, a commencé à s'accumuler sur les années. Et aujourd'hui, donc, il y a une exposition qui a lieu entre mon travail et le travail de Sakubei au musée de la mine de Tagawa, dans la préfecture donc de Fukuoka. Donc Tagawa, c'est là qu'ils sont dépositaires des œuvres de Sakubei. Et donc, je parlais de la réalité minière à Osaka, donc à l'Expo universelle. Et ensuite, on a fait l'inauguration de l'exposition à Tagawa. C'est un travail de longue haleine, et alors c'était très touchant parce que il faut quand même savoir, bon, ça réunit aussi des universitaires du monde de la mine. C'est très touchant parce que Sakubei, en fait, c'est une des dernières personnes qui a vraiment la parole orale, on va dire, des mineurs. C'était vraiment très honteux apparemment pour les gens au Japon d'être mineurs, d'être descendants de mineurs ou que sais-je. Et donc, il y avait une forme de honte. Aujourd'hui, la parole s'est un peu éteinte, parce que justement, il reste un patrimoine physique, il reste un patrimoine matériel, mais il n'y a pas vraiment de témoignage qui existe au Japon. Et il y a quelques années, un professeur d'université japonaise s'est lancé vraiment à recenser les témoignages, les interviews, et là, la parole s'est libérée. Et Sakubei a permis, quelque part, de veiller à ce que cette parole soit conservée. Il a veillé vraiment, c'est même grâce à lui qu'on a pu bon, dire comment telle machine se mettait ou comment les choses se passaient sur un point de vue social et sociétal dans la vie des mineurs. Et donc, c'est après le fruit de tout ce travail que je me trouve maintenant au Japon, c'est pour d'une part inaugurer l'exposition qui a lieu à Tagawa et d'autre part, c'est pour participer à l'exposition universelle de Osaka. Ici, je vais repartir tout doucement et là, je suis en train justement de préparer un roman graphique qui va s'appeler pour l'instant La couleur de la mine et qui sera prévu aux éditions Côte-Côte-Côte. Mais l'exposition est intitulée en fait. Alors, l'exposition est intitulée La relation invisible. Alors, c'est intéressant parce que c'est un peu finalement une continuité de tout ce que j'ai pu faire avec Philippe, tout ce que j'ai pu faire avec Blue Book. C'est-à-dire qu'on travaille sur la mémoire, on travaille sur le patrimoine, on travaille sur le passage de la parole. C'est-à-dire on transmet la transmission du geste et de la parole. Souvent, il reste que le côté matériel et la parole disparaît et s'évanouit. Et c'est pas moi qui ai trouvé ce nom, la relation invisible. C'est, je vais le nommer, c'est Sébastien Jaffredo qui travaille à l'ambassade de Belgique à Tokyo. On discutait à un moment. Et il me dit finalement, tu as une relation invisible avec Sakubei. Et on a tout de suite rebondi sur cette phrase de Sébastien et on dit, mais finalement, ça ferait un bon titre d'expo, ça. Et donc, du coup, on doit ce titre à Sébastien. Et c'est vrai que c'est une relation invisible que je vis de manière générale avec tous les artistes que j'aime et que j'apprécie. Et Sakubei en fait partie, c'est vraiment quelqu'un qui m'a fortement impressionné, qui m'a fait forte impression. Le roman graphique sur lequel je travaille reprend aussi des témoignages de mineurs. Donc j'ai été à Taïwan également, j'ai rencontré un ancien mineur, Monsieur Chu, qui était descendu au fond de la mine à l'âge de 14 ans et c'était sa maman qui lui avait appris à être mineur. Donc sa maman était elle-même mineure et travaillait au fond de la mine, au même titre que n'importe quelle autre personne. Et donc, c'est elle qui lui a appris tous les gestes de mineur, parce que son papa a eu un accident, au fond de la mine et a été même mobilisé dans le lit pendant plusieurs années. Et donc, je suis en train de travailler sur ce projet-là, donc c'est une des raisons pour lesquelles je suis au Japon ces derniers jours. Donc, j'ai recensé également de la documentation au-delà de la conférence, au-delà de l'exposition à Tagawa. Je recense la documentation et là, ces dernières heures, ces derniers jours, je fais un tout petit peu de tourisme. Parce que on va... Mais je flâne dans les rues, je me perds. Hier, j'ai terminé dans un club de jazz de Fukuoka où j'ai rencontré des formidables musiciens. Et j'aime bien aussi laisser place à l'accident parce que c'est l'accident qui va alimenter la suite. Laisser place à la rencontre. Finalement, c'est ce qui m'est un peu arrivé jusqu'à maintenant. Voilà ce que je peux dire pour mon petit détour au Japon.
Et donc, merci Dimitri d'avoir pris le temps de répondre à ces questions envoyées par mail et qu'il nous a répondu par WhatsApp. Le projet Blue Book, ben voilà, c'est 12 titres. Celui de Dimitri, c'était le numéro 2, Salaryman. Des livres qui sont disponibles à l'ULB, sur le campus de l'ULB, dans le bâtiment F1, à côté d'un distributeur de soda, il y a un distributeur de livres. Et aussi ce mercredi 10, à la journée de la Jeanne, la journée d'accueil des nouveaux étudiants. Radio Campus sera là, mais Blue Book aussi sera là pour présenter les livres. Donc voilà, si vous êtes du côté du campus ce mercredi, ben, n'hésitez pas à passer voir les éditeurs de Blue Book qui seront là, ou si vous êtes trop curieux, curieuse, bluebook.be pour avoir un peu plus d'infos. Sinon, il y a aussi quelques librairies qui les ont, dont Tropisme et le Sterput. Et on va terminer avec un morceau mêlant à la fois l'ancien et le nouveau, et un peu dynamique pour terminer cette émission carte blanche, un morceau du groupe Erasure, The Good, The Bad and The Ugly.